RFI, il est 5h30 ici à Paris, une heure de moins en temps universel. Votre journal présenté par Simon Bourtembourg. Bonjour Simon.
Bonjour Juliette, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ensemble pour une demi-heure au menu des reportages, des entretiens, des analyses pour décrypter l'actualité africaine. Et pour commencer le journal avec à la une cette rencontre entre Félix Tshisekedi et son homologue Denis Sassou Nguesso. Entretien au palais présidentiel de Brazzaville où il a été question du M23 et de ses avancées dans le nord de la RDC. Plusieurs affrontements ont d'ailleurs encore été signalés hier entre les rebelles soutenus par le Rwanda et l'armée congolaise. À la une également, Emmanuel Macron qui a conclu en Éthiopie son déplacement dans la Corne de l'Afrique. Le président français a appelé à déposer les armes au Soudan. Il a également fait part de son soutien au désir éthiopien d'obtenir un accès à la mer. Dans cette édition, nous verrons comment 50 ans après le référendum qui a vu Mayotte se détacher des Comores, la question d'un retour dans le giron comorien n'a jamais quitté les débats sur les autres îles de l'archipel. Et puis dans 12 minutes, ce sera le journal des sports avec du football et la suite du deuxième tour aller des éliminatoires du CHAN 2025. Pas de négociation directe avec le M23 après l'échec du dernier sommet tripartite de Luanda. Félix Tshisekedi persiste et signe lors de sa rencontre au palais présidentiel de Brazzaville avec son homologue Denis Sassou Nguesso. La sécurité dans la sous-région était évidemment au cœur des discussions entre les deux chefs d'État ce samedi. Le président Tshisekedi a exposé les positions des rebelles du M23 en RDC et cherché à avoir le soutien de son voisin dans la médiation menée par l'Angola. Correspondance à Brazzaville de Loïcia Martial.
Le président Félix Tshisekedi a été accueilli par le premier ministre Anatole Kouliné Makosso. C'est en milieu d'après-midi qu'il a rejoint son homologue Denis Sassou Nguesso au palais du plateau. Après le dîner, leur tête à tête a duré de longues heures. À interroger sur les échanges, une source diplomatique a affirmé qu'ils ont été dominés par les questions de paix à l'est de la RDC et le renforcement des relations entre les deux pays. Un communiqué conjoint remis à la presse annonce que Félix Tshisekedi a présenté à son homologue l'état de la situation à l'est de la RDC, ainsi que le processus de Luanda dont les récentes négociations ont avorté. Kinshasa refusant de discuter directement avec le groupe M23 qui sème la terreur dans cette zone. De son côté, le président Denis Sassou Nguesso a dit toujours, selon ce texte, soutenir les efforts déployés par le président angolais, João Lourenço, en vue de mettre un terme à cette crise. Enfin, il a exhorté les partis à poursuivre et privilégier les négociations en cours, qu'il qualifie, je cite, de moyens par excellence de résolution des conflits. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI.
Et c'est dans ce contexte que de violents combats ont une nouvelle fois été observés hier samedi sur plusieurs axes dans le territoire du Lubero. Des affrontements entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et l'armée congolaise. L'armée congolaise qui a lancé des contre-offensives sur l'axe du Lubero avec l'appui des Wazalendo. Les villages de Kanyabi et Masamba ont été récupérés. Kamandijit et Lac ont été également le théâtre de violents combats hier. Emmanuel Macron était, lui, samedi en Éthiopie. C'est la deuxième visite du président français dans le pays enclavé de la Corne de l'Afrique et l'occasion pour lui de soutenir le désir éthiopien d'obtenir un accès à la mer. Emmanuel Macron a évoqué une demande légitime avant de saluer le récent accord trouvé avec la Somalie sur ce dossier régional sensible. Les détails avec notre envoyé spécial Pierre Firsion.
C'est un objectif central pour l'Éthiopie. Le pays cherche à obtenir un accès à la mer Rouge, un sujet qui avait généré de fortes tensions avec la Somalie voisine lorsqu'en janvier, Addis Abeba a signé un protocole d'accord avec la région séparatiste du Somaliland pour lui louer 20 km de côte. Un projet d'accès à la mer sur lequel le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a demandé hier l'aide de la France.
L'Éthiopie a une population de 130 millions d'habitants. L'économie croît de manière considérable. Et pour cela, c'est un pays qui aura besoin d'accès à la mer, de manière paisible, diplomatique, en collaborant avec des pays frères comme la France.
Emmanuel Macron s'est dit prêt à mettre de l'huile dans les rouages, dans ce dossier extrêmement sensible. Le président français jugeant ce projet légitime.
Est-ce que le Premier ministre a dit sur l'accès à la mer, la nécessité pour l'Éthiopie de diversifier ses accès, d'avoir la maîtrise de son destin dans un environnement régional ô combien difficile, est une demande légitime. Et la France souhaite, le rôle qu'elle peut jouer, et beaucoup d'humilité, eh bien aider à ce processus de diversification par un dialogue responsable, apaisé, respectueux du droit international.
Le 11 décembre dernier, sous l'égide de la Turquie, le Premier ministre Abiy Ahmed et le président somalien Hassan Sheikh Mohamud se sont mis d'accord pour permettre à l'Éthiopie d'obtenir un accès à la mer sans que cela ne heurte Mogadiscio. Pierre Firsion, Addis Abeba, RFI.
Et avant l'Éthiopie, le président français était à Djibouti et à Mayotte, cette fois au chevet des Mahorais après le passage du cyclone Chido. L'archipel français de l'océan Indien où l'aide arrive au compte-gouttes, de premiers envois d'eau notamment sont arrivés des Comores hier. Les Comores, ancienne colonie française qui fête aujourd'hui les 50 ans de son indépendance. Mais depuis le référendum du 22 décembre 1974 où Mayotte a préféré rester sous la coupe de Paris, les Comores rejette le résultat du scrutin qui a été décompté île par île. Les Comores revendiquent sans relâche la comorinalité de Mayotte. Abdallah Mzembaba.
À proximité de la place de l'indépendance à Moroni, un panneau affiche clairement « Mayotte est comorienne et le restera à jamais ». Pour Houmed Msédié, conseiller politique du président Azali Assoumani, les Comores ne vont jamais transiger sur cette revendication.
Mayotte est toujours comorienne en nous fondant sur trois principes. Le premier, c'est que nous sommes un seul peuple, c'est une seule nation. Deuxièmement, par respect aux accords de juin 1973 qui préconiser l'accession des Comores dans son intégralité territoriale. Le troisième principe, c'est le principe qui émane des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, Mayotte est comorienne.
Maître Atiki Youssouf, membre du comité maoré qui milite pour le retour de Mayotte, affirme que l'île est comorienne en raison de son histoire et de sa culture commune et que cela constitue un fait intangible.
L'acte de naissance de notre jeune nation n'a jamais dit que les Comores sont composés de trois îles pour que l'on revendique une quatrième qui n'est pas à nous. Notre revendication est que l'indépendance de notre territoire soit achevée et que le gouvernement comorien puisse librement exercer sa souveraineté sur l'ensemble du territoire. C'est une question d'histoire.
Pour tout Comorien, défendre Mayotte, c'est rappeler que les frontières et la politique ne peuvent effacer des siècles d'histoire commune, de liens familiaux et une identité culturelle qui résiste au temps et aux divisions coloniales. Abdallah Mzembaba Moroni.
Et je vous encourage à vous rendre sur le site www.rfi.fr pour retrouver un article détaillé sur les contentieux politiques, historiques, identitaires et culturels qui perdurent dans l'archipel des Comores un demi-siècle après le référendum sur l'indépendance. À la une de notre site également, reportages et photos après la cérémonie de maréchalisation de Mahamat Idriss Déby au Tchad. On y revient dans nos prochaines éditions. Ne leur parlez pas de victoire, mais en Tunisie, les défenseurs des droits humains sont désormais soutenus par une quarantaine de députés qui souhaitent réviser le décret loi 54. Ce texte, promulgué en 2022 par le président Kais Saied, est dénoncé par beaucoup qui y voient une atteinte à la liberté d'expression. Le texte prévoit notamment une amende de l'équivalent de 15 000 euros et jusqu'à 5 ans de prison pour quiconque publie une fausse nouvelle ou une rumeur. Près d'une quinzaine de journalistes sont poursuivis sur la base de ce décret-loi. Des internautes sont également ciblés. À Tunis, la correspondance de Lilia Blaise.
Mohamed Ali est député et rapporteur de la commission Droits et Libertés au Parlement. Il plaide en faveur de l'amendement du décret-loi.
C'est un décret qui malheureusement va à l'encontre des droits des citoyens, qui entrave leurs droits politiques, économiques et sociaux et leur liberté d'expression. C'est pour cela que nous nous sommes regroupés pour soumettre l'initiative d'un nouveau projet de loi autour de ce décret. Je pense qu'en faisant cela, nous ne sommes pas en décalage avec la réalité du pays. Nous ne sommes pas les seuls à être favorables à la révision de ce texte.
Pour Ziad Dabar, président du syndicat des journalistes, le soutien des députés est un pas en avant, car cela fait 2 ans que les journalistes et défenseurs des droits humains se mobilisent. Mais certains obstacles persistent.
Première phase, il y a eu une dizaine de députés. Aujourd'hui, il y a presque une 57 signatures pour déposer cette initiative. Sauf que le président du Parlement rejette toujours cette idée, on ne sait pas pourquoi.
Et selon la constitution tunisienne de 2022, le pouvoir du Parlement reste très restreint face à celui de l'exécutif. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Et puis ce matin, nous vous proposons de découvrir les nouveaux acteurs de la poésie au Cameroun, des poètes francophones et anglophones nés à la fin des années 90 qui se sont regroupés dans le collectif Night Voice, les voix de la nuit en français. Cette dizaine d'artistes donne régulièrement des spectacles dans les cafés de la capitale camerounaise. Ce week-end, ils se sont produits à Yaoundé où s'est rendu pour nous Richard Onanena.
Dans sa robe traditionnelle que les parures qui ornent son cou sublime, Latifa raconte sa douleur.
Mon âme crie, mon cœur pleure. Je ne peux pas être celle dont ma mère rêve tant.
Est un poème qu'elle a écrit pour dénoncer le tort que les religions peuvent causer dans les familles. C'est aussi ça, la nouvelle scène poétique camerounaise des jeunes bilingues qui écrivent pour changer les choses.
Oui, c'est mon conflit intérieur et c'est une manière pour moi de dénoncer et de m'accepter aussi. Ce n'est pas juste les musulmans qui protestent, il y a aussi les chrétiens, mais plus les religieux.
Même si la recette n'attire pas les foules, Billy et Jean-Marie sont ravis de ces découvertes.
Je pense que la poésie a disparu de nos habitudes depuis un certain temps et c'est ce type de soirée qui nous rappelle qu'elle est existante.
C'était une magnifique soirée. Je me rends compte que des poètes au Cameroun, il y en a vraiment, mais il faudrait aller les chercher. Il faudrait leur donner la force, les encourager à pouvoir mieux s'exercer.
Les poètes qui se regroupent dans le collectif Night Voices, les voix de la nuit, se retrouvent tous les mois, parfois devant une centaine d'amateurs de poésie, pour partager leurs textes. Richard Onanena, Yaoundé. RFI,
il est 5h passées de 41 minutes ici à Paris, une heure de moins en temps universel.
Afrique Matin sur RFI.
Et nous sommes encore ensemble et nous mettons le cap ce matin sur le Maroc et la ville de Casablanca où les chauffeurs de taxi et de VTC se disputent forcément le marché. Il n'est pas rare que les conducteurs en viennent aux mains dans le pays où un vide juridique plane concernant